5. Quand il dure, il n'y a presque rien de plus décourageant que le froid constant. Le jour, ça allait encore. Ils étaient en mouvement, au moins. Ils faisaient fonctionner leurs muscles et circuler leur sang. Pourtant, même dans la journée, elle se mit à redouter les zones dégagées qui leur arrivaient de traverser. Balayée par le vent qui avait parcouru en hurlant des kilomètres de roches nues et crevassées, parfois hérissée d'une butte ou interrompue par une mésa. Les promontoires surgissaient sur fond de ciel bleu et monotone, comme les doigts rouges de géants de pierre ensevelis. Le vent semblait se faire plus vif encore, alors que Roland et Susanna se traînaient sous les tourbillons laiteux des nuages qui dérivaient le long du sentier du rayon. Elle levait ses mains crevassées pour s'en protéger le visage, et elle maudissait cette sensation dans ses doigts, qui ne s'engourdissaient jamais complètement, mais se mettaient à fourmiller et à picoter en profondeur. Ses yeux se remplissaient d'eau sans discontinuer, jusqu'au moment où les larmes jaillissaient sur ses joues. Le sillage des larmes ne gelait jamais, le froid n'était pas suffisamment mordant. Il l'était juste assez pour leur rendre doucement la vie de plus en plus misérable. Pour quelle somme dérisoire aurait-elle été prête à vendre son âme immortelle durant ces jours détestables et ces nuits effroyables? Parfois elle se disait qu'un simple pull aurait suffi. Ou bien elle pensait « Non, chérie, tu as trop d'amour-propre pour ça, même en cet instant. Tu serais vraiment prête à passer l'éternité en enfer ?» Voir dans les ténèbres Vahadash pour un simple pull? Certainement pas. Eh bien, peut-être pas. Mais si le diable qui l'a tenté devait lui tendre une paire de cache-oreilles, et il aurait suffi de tellement peu de choses pour leur rendre la vie plus confortable. Elle y pensait sans relâche. Ils avaient de la nourriture et de l'eau aussi. Car tous les 20 kilomètres environ, ils étaient tombés sur des pompes encore en état de marche et qui tiraient de grands flots jaillissants d'eau froide au goût minéral des profondeurs des Maltaires. Les Maltaires. Elle eut des heures, des jours et bientôt des semaines pour méditer sur ce terme. Qu'est-ce qui faisait que des terres étaient mauvaises? L'eau empoisonnée? L'eau d'ici n'était pas douce, loin de là, mais elle n'était pas non plus empoisonnée. Le manque de nourriture. Ils avaient de la nourriture, même si elle se doutait que le problème de la pénurie se poserait peut-être plus tard, s'ils n'en trouvaient pas assez vite. En attendant, elle n'en pouvait plus du hachis de bœuf en boîte, sans parler des petits déjeuners à base de raisins secs et des desserts à base de raisins secs. Pourtant, ça restait de la nourriture. Du carburant pour le corps. Qu'est-ce qui faisait que des terres étaient mauvaises quand on avait à manger et à boire? Regarder le ciel virer à l'or, puis au brun roux à l'ouest. Le regarder virer au pourpre, puis au noir piqueté d'étoiles à l'est. Elle voyait finir le jour avec une angoisse croissante. La perspective d'une nouvelle nuit interminable qu'ils affronteraient, blottis tous les trois l'un contre l'autre, tandis que le vent gémissait à travers les rochers et que les étoiles dardaient sur eux leur regard glacial. Des étendues infinies de purgatoire gelé, et leurs mains et leurs pieds qui vibraient, et elle se disait « Si seulement j'avais un pull et une paire de gants, ça pourrait aller. Il suffirait de ça, un pull et une paire de gants. » Parce qu'il ne fait pas si froid, en fait. D'ailleurs, à combien descendait réellement la température à la nuit tombée? Jamais en dessous de zéro, car l'eau qu'elle avait versée pour ôter ne gelait pas. Elle supposait que la température baissait autour de 10 degrés, entre minuit et l'aube. Une nuit ou deux, ça avait sans doute approché des 5 degrés, car elle avait remarqué que de petites particules de glace s'étaient formées sur les bords du pot qui servait d'écuelle à ôter. Elle regarda de plus près sa fourrure. Elle se dit d'abord que ce n'était là qu'un exercice spéculatif pour passer le temps. Comment le métabolisme d'un bafouilleux fonctionnait-il exactement? Et cette fourrure? Cette fourrure épaisse, d'une épaisseur indécente, d'une épaisseur presque intolérable, lui tenait-elle vraiment chaud? Petit à petit, elle dut bien admettre que ce qu'elle ressentait était de la jalousie pure et simple, susurrée par la voix de Déta.
Ce petit salopat là, l'a pas foi quand il fait nuit, hein? Non, pas lui. Tu crois qu'on pouvait se tailler une paire de moufles dans ce pot-là?
Elle écartait ses pensées avec véhémence. Le cœur malheureux et horrifié, se demandant s'il existait des limites à la méchanceté, au calcul et à la veulerie de l'esprit humain, puis décida qu'elle ne voulait pas vraiment savoir. Le froid pénétrait de plus en plus profondément en eux, jour après jour, nuit après nuit, comme une écharde glacée. Ils se serraient l'un contre l'autre, ôtés blottis entre eux, puis se retournaient pour changer le côté qui affrontait le froid de la nuit. Le sommeil réellement réparateur ne durait jamais longtemps, quelle que fût leur fatigue. Lorsque la lune fut de nouveau croissante, illuminant les ténèbres, ils passèrent les 2 semaines suivantes à marcher de nuit et à dormir le jour. Ce fut un peu mieux. Les seules traces de vie sauvage qu'ils aperçurent furent de grands oiseaux noirs volant à l'horizon, au sud-est, ou tenant congrès en haut des mésas. Quand le vent était clément, Roland et Susanna entendaient leurs conversations stridentes et incessantes.
« Tu crois que ces trucs auraient bon goût ?»
demanda un jour Susanna au pistolero. La lune avait presque disparu et ils avaient repris leurs anciens rythmes, avançant de jour pour anticiper certains dangers, notamment des crevasses profondes en travers de leur chemin, ainsi qu'un puits de carbone qui leur parut sans fond.
« Qu'est-ce que tu en penses, toi ?»
rétorqua Roland.
« Je pense que non. Mais je dirais pas non à un petit essai. »
Elle marqua une pause.
« De quoi tu crois qu'ils vivent ?»
Roland ne put que secouer la tête. Le chemin ondulait au milieu d'un fantastique jardin pétrifié de formations rocheuses escarpées et affûtées comme des lames. Plus loin, une centaine d'autres oiseaux noirs rappelant des corbeaux décrivaient des cercles au-dessus du sommet plat d'une mésa, ou bien s'étaient posés sur le bord et contemplaient Roland et Susanna comme un jury aux yeux noirs en boutons de bottine.
« On devrait peut-être faire un détour, »
suggéra-t-elle,
« histoire de voir ce qu'on trouve. »«
Si on perd la piste, il se peut qu'on ne la retrouve pas, »
fit remarquer Roland.
« C'est des conneries. Otte pourra... »«
Susanna, je ne veux plus en entendre parler. »
lança-t-il sur un ton cassant et en colère qu'elle ne lui avait jamais entendu auparavant. En colère, oui, elle l'avait entendu maintes fois en colère. Mais cette fois-ci, elle entendit une pointe de mesquinerie, de bouderie qui l'inquiéta et qui lui fit aussi un peu peur. Ils poursuivirent en silence pendant la demi-heure qui suivit, Roland tirant le taxi de luxe de Hofat et Susanna en selle. Puis les 3 sentiers, l'avenue Malter, comme elle l'avait rebaptisée, se mit à monter et elle sauta à terre, le rattrapant en route et se calquant sur sa marche. Pour ce genre d'expédition, elle avait déchiré son t-shirt de la maison de retraite en lambeaux qu'elle s'était enroulé autour des mains. Ce qui la protégeait des pierres tranchantes, tout en la réchauffant un petit peu. Il baissa le regard vers elle, puis se concentra de nouveau sur le chemin. Sa lèvre inférieure saillait légèrement, et Susanna se dit qu'il ne devait pas imaginer combien cette expression lui donnait un air têtu et ridicule. Celle d'un gamin de 3 ans à qui on a refusé d'aller faire des pâtés sur la plage. Il n'en avait aucune idée, et elle n'avait pas l'intention de le lui dire. Plus tard, peut-être, quand il pourrait se remémorer ce cauchemar en riant, quand il ne se rappellerait vraiment pas ce qu'il y avait de si terrible à passer la nuit par 6 degrés, à grelotter sur le sol glacé, les yeux grands ouverts, et à voir de temps à autre la traîne de feu d'une météorite érafler le ciel. Le tout en se disant
« Un pull, c'est tout. Avec un pull, je serai heureuse comme une perruche à l'heure de la becquée.
et à se demander s'il y avait assez de fourrure sur le dos d'Othée pour leur faire une paire de chaussettes à chacun. Et même si tuer cette petite bête ne serait pas lui rendre service, finalement. Il était tellement triste quand Jack était entré dans la clairière.
« Susanna, » dit Roland, « j'ai été dur avec toi à l'instant. J'implore ton pardon. »«
Pas la peine. »«
Si, je crois que si. » Nous avons assez d'ennuis comme ça, sans créer de problème entre nous, sans créer de ressentiment ou d'amertume entre nous. »
Elle ne répondit rien. Elle leva les yeux vers lui, tandis qu'il scrutait l'horizon en direction du sud-est et les oiseaux qui tournaient.
« Ces corbeaux, » dit-il.
Elle attendit.
« Dans mon enfance, on les appelait parfois les merles de Gannes. Je vous ai raconté, à Eddie et à toi, que mon ami Cuthbert et moi, nous avions répandu des miettes de pain pour les oiseaux, après la pendaison du cuisinier, n'est-ce pas ?
Oui.
C'étaient des oiseaux exactement comme ceux-là. On les appelait aussi les corbeaux du château. Jamais les corbeaux royaux, cependant, parce que c'étaient des charognards. Tu demandais de quoi vivaient ces oiseaux là-bas ? Peut-être qu'ils vont faire les charognards dans les arrière-cours et les rues de son château à lui, maintenant qu'il est parti.
Le casse-roi russe, au roi rouge, quel que soit le nom qu'on lui donne.
Si fait. Je ne peux pas le garantir, mais...
Roland suspendit sa phrase. Il laissa son regard vagabonder encore quelques instants vers les oiseaux, et oui... Il avait bien l'impression qu'il faisait des allers et retours en direction du sud-est. Ce mouvement des oiseaux indiquait peut-être qu'ils avançaient dans leur périple, après tout. Ce n'était pas grand-chose, mais ça suffit à remonter le moral de Susanna pour la journée, et même au plus noir de sa nuit glaciale et désespérante. 6. Le matin suivant, alors qu'il savourait un énième petit déjeuner froid dans un énième campement sans feu, Roland avait promis que ce soir-là, ils utiliseraient un peu du méta pour prendre au moins un repas tiède. Susanna demanda si elle pouvait jeter un œil à la montre qu'on lui avait offerte, à la Tête Corporation. Roland la lui donna bien volontiers. Elle observa longuement les trois sigles sur le clapet, notamment la tour ornée de sa spirale de meurtrière. Puis elle l'ouvrit et contempla l'intérieur. Sans lever les yeux vers Roland, elle dit
« Répète-moi ce qu'ils t'ont dit déjà. »
« Ils m'ont informé de ce que leur avait rapporté un de leurs bons esprits. Un homme particulièrement doué d'après ce qu'il disait, bien que je ne me rappelle pas son nom. » Selon lui, la montre pourrait s'arrêter quand on approchera de la tour sombre, ou même se mettre à tourner en sens inverse.
J'imagine mal une Patek Philippe se mettre à remonter le temps. Si on se fie à ce qu'elle indique, il est 8h16 du matin, ou du soir, à New York. Ici, on dirait qu'il est dans les 6h30 du matin, mais je suppose que ça ne veut pas dire grand-chose. Comment on est censé se rendre compte que cette beauté avance ou retarde.
Roland s'interrompit dans le rangement des provisions de son guna et réfléchit à sa question.
Tu vois l'aiguille minuscule en bas? Celle qui est toute seule dans son cadran.
La trotteuse, oui.
Dis-moi quand elle sera à zéro.
Elle regarda la trotteuse terminer son tour de cadran et lorsqu'elle arriva à midi, elle fit « Ça y est ». Roland était accroupi, position très aisée pour lui, maintenant qu'il n'avait plus mal à la hanche. Il ferma les yeux et s'entoura les genoux de ses bras. À chacune de ses expirations, un petit voile de vapeur s'élevait dans l'air froid. Susanna s'efforça de ne pas regarder. C'était comme si ce froid détestable était devenu assez fort pour apparaître devant eux, toujours fantomatique, mais visible.
« Roland, qu'est-ce que tu f... »
Il leva la main, la paume tournée vers elle, sans ouvrir les yeux. La jeune femme se tut. La trotteuse reprit sa course circulaire, d'abord vers le bas, puis remontant avec constance vers son apogée. Lorsqu'elle fut de nouveau droite, Roland rouvrit les yeux et dit « C'est une minute, une vraie minute. Je me suis calqué sur le rayon. »
Susanna resta bouche bée.
« Comment tu as fait ça, bon sang ?»
Roland secoua la tête. Il n'en savait rien. Tout ce qu'il savait, c'est que Corte leur avait enseigné qu'il fallait qu'ils soient toujours capables de garder une juste notion du temps, parce qu'ils ne pourraient pas se fier aux montres et qu'un cadran solaire ne leur serait pas bien utile par temps nuageux. Ou à minuit, d'ailleurs. Un été, il les avait envoyés dans la pépinière, à l'ouest de la forteresse, nuit après nuit. Et ça faisait peur, en plus, au moins quand on était tout seul, même si bien sûr aucun d'eux n'aurait avoué une chose pareille à voix haute, même à son meilleur ami. Jusqu'à ce qu'ils soient capables de revenir dans la cour située derrière le grand hall à la minute précise qu'avait désignée Corte. Incroyable comme ça fonctionnait, cette histoire d'horloge dans la tête. Le problème, c'est qu'au début ça ne marchait pas, et toujours pas. Et toujours pas. Corte baissait sa main calleuse, il les rouait un bon coup et se mettait à rugir. « Ah, asticots ! J'en connais un qui est bon pour tourner dans les bois demain soir. Faut croire que t'aimes ça !» Mais une fois que la montre interne se mettait à faire tic-tac, elle avait l'air assez infaillible. Pendant un temps, Roland l'avait perdu, comme le monde avait perdu ses points cardinaux. Mais il l'avait maintenant retrouvé, ce qui le réjouissait profondément.
« Tu as compté seconde à seconde ?»
demanda-t-elle.
« Mississippi 1, Mississippi 2, et ainsi de suite ?»
Il secoua la tête.
« Je le sens, c'est tout. Quand une minute se termine, ou une heure. »«
Saperlipopeta !» se moqua-t-elle. « C'était un coup de chance ?»
« Si c'était un coup de chance, est-ce que je serais tombé pile à la fin de la minute ?»«
Ouais, t'aurais pu !» s'exclama Déta en lui lançant un regard plein d'astuces, en fermant presque un œil, expression que Roland détestait. Il ne le lui avait jamais dit cependant, car ça aurait eu pour seul effet de titiller Déta, qui n'aurait pas raté une occasion de le regarder de travers.
« Tu veux refaire une tentative ?» proposa-t-il.
Non,
fit Susanna dans un soupir.
Je te crois sur parole. Ta montre marche parfaitement, ce qui signifie qu'on n'approche pas de la tour sombre. Pas encore.
On n'est peut-être pas assez près pour que la montre s'arrête, mais jamais je n'ai été plus proche,
dit le pistolero d'une voix calme.
En comparaison, on est presque dans son ombre en ce moment. « Crois-moi, Susanna, je sais ce que je dis. »
Mais...
Au-dessus d'eux résonna un croassement à la fois rauque et bizarrement étouffé. Plutôt « crou, crou » que « croix, croix ». Susanna leva la tête et vit l'un de ces énormes merles, ceux que Roland appelait les corbeaux de château, passés tellement bas qu'ils entendirent la caresse vigoureuse de ses ailes. Un filament mou d'un jaune verdâtre pendait de son long bec crochu. Susanna crut reconnaître un morceau d'algue, sauf qu'elle bougeait encore l'algue. Elle se tourna vers Roland, les yeux remplis d'excitation. Il hocha la tête.
« De l'herbe du diable. Il doit la rapporter pour le nid, sans doute pas pour la faire manger aux petits, pas ça. » Mais l'herbe du diable, c'est toujours la dernière chose que tu vois quand tu rentres dans les terres de nulle part, et la première quand tu en sors, ce que nous sommes en train de faire. Enfin, maintenant écoute-moi, Susanna. Je voudrais que tu m'écoutes vraiment, et je veux que tu écartes cette garce de Déta Walker aussi loin que possible, parce qu'elle devient pénible. Et ne me fais pas perdre mon temps en me racontant qu'elle est partie quand je la vois danser le Comala dans tes yeux. »
Susanna eut l'air surpris, puis piqué, comme si elle s'apprêtait à protester. Puis elle détourna le regard sans un mot. Lorsqu'elle le posa de nouveau sur lui, elle ne sentait plus la présence de celle que Roland avait appelée la garce pénible. Et Roland dut constater lui aussi qu'elle n'était plus là, car il poursuivit.
« Je pense qu'on aura bientôt l'impression de quitter les Maltaires, mais je te conseillerais de ne pas te fier à ce que tu vois. » Quelques bâtisses et quelques ruelles pavées ne suffisent pas à se sentir en sécurité ou de retour dans la civilisation. Et avant longtemps, nous allons arriver à son château, celui du casse-roi russe. Le roi cramoisi en est parti, c'est presque certain, mais il a pu nous laisser un piège. Je veux que tu ouvres les yeux et les oreilles. S'il faut palabrer, je veux que tu me laisses faire.
« Que sais-tu que je ne sache pas ? » demanda-t-elle. « Qu'est-ce que tu ne me dis pas ?»«
Rien, » dit-il avec une sincérité qui, pour lui, était très rare.
« C'est juste une impression, Susanna. Nous approchons de notre but à présent, peu importe ce qu'en dit la montre. On est prêt de gagner notre ascension de la tour sombre. » Mais mon professeur Vanet disait qu'il n'y a qu'une seule règle qui ne souffre aucune exception. Avant la victoire, vient la tentation. Et plus la victoire est capitale à remporter, plus la tentation sera difficile à déjouer.
Susanna frissonna et serra les bras autour de son buste.
« Tout ce que je veux, c'est avoir chaud, » dit-elle. « Tant que personne ne m'offre un grand feu crépitant et une combinaison en flanelle en échange de mon reniement, je pense qu'on est tranquille pour un petit moment. »
Roland se remémora l'une des maximes les plus sérieuses de Corte.
« Ne prononce jamais le pire à voix haute. »
Mais se garda d'en faire part à la jeune femme. Il rangea soigneusement sa montre puis se leva, prêt à changer de décor. Mais Susanna demeura un moment pensive.
J'ai rêvé de l'autre.
Elle n'avait pas besoin de préciser de qui il s'agissait.
Trois nuits de suite, j'ai rêvé qu'il suivait notre piste. Tu penses qu'il est vraiment là ?
Oh oui, dit Roland. Et je crois qu'il a l'estomac vide.
Lofin, Mordred Lofin,
dit-elle, car c'était des mots qu'elle avait entendus en rêve. Elle fut secouée d'un nouveau frisson.